Moisir, c'est réduire un peu, c'est martyr un peu. Martyr, c'est tartir un peu, c'est pâtir un peu, c'est pâlir un peu. Pâlir, c'est gémir un peu, c'est vomir un peu. Pour mourir pas trop porogne, ouvrez une bouteille de champagne. Dès que la main de la charogne glisse sous votre pagne. Pour mourir calme et sans hargne, vivez cul nu et sans vergogne. Partez faire la guerre en Espagne avec Simone. Mourir c'est finir un peu, ah bah tiens elle est finie ma chanson. Pour mourir dans très très longtemps, évitez les emmerdements. Pour mourir dans très très longtemps, mourrez vivant, vivez souvent. Pour mourir dans très très longtemps, vivez mourant, mourrez souvent. La 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 la.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui animée par Valère Marie Marchand. Notre invité du jour est Jean-Claude Raspienjas. Il vient de publier aux éditions Équateur La France à la carte. Une enquête passionnante sur l'histoire de nos cartes routières, sur l'évolution de nos modes de transport et sur notre rapport à l'espace-temps. Au fil des pages, on voit ainsi se dessiner l'anatomie du paysage français, avec ses premières signalisations, ses premières routes nationales ou départementales, ses premières bornes kilométriques. Carte en main, l'auteur qui s'est déjà immergé dans l'univers des bateliers et des routiers nous invite à redécouvrir un territoire à visage humain, à laisser du temps au temps et à délaisser les directives du GPS et autres aléas de l'intelligence artificielle pour s'aventurer sur d'autres chemins de traverse. Déplier une carte routière, nous dit-il, c'est déjà être ailleurs, c'est déjà voyager. Mais je vous laisse découvrir par vous-même cette épopée de la route en présence de Jean-Claude Raspienjas qui a su redonner sens et vie à cet imaginaire géographique. Jean-Claude Raspienjas, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions des Équateurs, La France à la carte. D'abord, une très belle couverture qui me rappelle évidemment les guides Michelin, les cartes de mon enfance. Une couverture vraiment très, très réussie. Et La France à la carte. Alors, c'est un titre, je dirais que c'est un titre à double sens. Ça veut dire que à la carte, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut, qu'on a la liberté et qu'on n'a pas, on n'a pas les ordres du GPS. Donc c'est vraiment la France de la liberté, la France du libre arbitre, j'allais dire. Et on sent ce bonheur chez vous. Alors on dit circuler, il y a rien à voir, mais chez vous, c'est plutôt circuler, il y a tout à voir, Jean-Claude Raspienjas. Quel est le premier pas de cet ouvrage? J'aimerais un peu connaître les. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé pour nous entraîner sur les pas de cette France à la carte, de cette France de notre enfance, de cette France de la lecture aussi.
Alors l'origine de ce livre est un peu, elle date il y a 5-6 ans. Il se trouve dans un précédent livre, j'avais fait une immersion dans le monde des routiers et j'avais roulé pendant plusieurs mois avec des routiers et des routières. Et à plusieurs moments, je les avais vus en difficulté sur la route et je voyais qu'ils ont 3 GPS. Et je les voyais parfois en difficulté et je voyais que systématiquement, ils ouvraient les cartes routières. Et je m'étais étonné, je me disais, mais pourquoi vous faites ça? Ils disaient, parce que la carte routière, elle fait foi. On sait que les informations ont été vérifiées, on sait que c'est du solide, que c'est du fiable. Donc c'est toujours la carte routière vers laquelle on se tourne en dernier recours. Et ils m'avaient dit, en plus elles sont tout le temps remises en... Elles sont annualisées, elles sont actualisées, et ils me disaient, on les change tous les 2 ou 3 ans. Mais je leur disais, mais attendez, les routes, c'est les routes, quoi. Mais ils me disaient, mais justement, ça n'arrête pas de changer, ça bouge, il y a des déviations, enfin tout ça. Et donc, c'était resté dans un coin de ma tête, et puis un matin, je me suis dit, mais je serais curieux de savoir, dans l'histoire de la cartographie, Comment les cartes routières se sont imposées, sont arrivées et sont rentrées à ce point-là dans nos vies, au point qu'elles appartiennent vraiment à nos vies, à notre patrimoine, à notre histoire personnelle et aussi à l'histoire collective du pays.
Voilà, histoire aussi familiale. Alors vous citez cette formule de Paul Vidal de La Blache, la France est un être géographique. Alors c'est vrai, est-ce que la carte redessine le territoire? Est-ce que c'est un appel pour notre imaginaire? Mais c'est vrai que c'est un être humain. Grâce à la carte, on voit une anatomie des territoires.
Absolument. Si vous ouvrez une carte routière, vous voyez l'écorché du pays. C'est-à-dire, vous voyez le cœur battant qui est Paris. On en pense ce qu'on veut de la centralisation, mais la réalité, c'est celle-là. Donc, vous voyez le cœur battant, et puis vous voyez les veines et les artères qui sont les routes rouges. Et puis, vous voyez des affluents qui sont les routes pittoresques, les routes jaunes. Mais vous voyez un corps, voilà. Et parfois, il m'arrive même de sentir presque la rumeur de ce pays en route, enfin, qui roule partout. Et je trouve, et en plus, c'est aussi un très bel objet esthétique quand on ouvre une carte routière, quelle que soit l'époque d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment elles évoluent, c'est quand même un très très bel objet esthétique.
Hein. Ouais. C'est un bel objet esthétique, c'est un objet de papier. Vous êtes un homme du livre, hein. Ça nous change, on va parler tout à l'heure du GPS, mais c'est vrai que c'est un ami, c'est un compagnon de route, la carte.
Non seulement c'est un compagnon de route, absolument, mais il appartient tellement à nos familles que dans toutes les familles, ouais. Vous avez des cartes routières, et pas que dans les voitures. Vous avez aussi la succession des cartes routières des différentes générations d'une famille, qui sont pliées un peu, j'allais dire, comme les draps ou les vieilles chemises, mais elles sont là, elles existent, et quand vous les ouvrez, vous voyez comment les choses ont évolué. Donc quand vous ouvrez une carte routière, vous avez un traité de géographie, vous avez un livre d'histoire, vous avez un tableau, vous avez la radiographie de ce pays, et vous avez de quoi rêver, car quand vous vous penchez sur une carte, même dans les endroits que vous ne connaissez pas, vous avez les noms qui surgissent, et si vous prêtez attention aux noms qui surgissent, vous allez voir à quel point c'est absolument magnifique. Et ça, le GPS vous l'offrira pas.
Et en plus, la carte, elle vieillit. On peut écrire dessus, on peut gribouiller dessus, on peut même les déchirer, ce qui cause...
On peut tout faire. On peut tout faire. L'usage des cartes, on peut absolument tout faire. Moi, j'ai des amis qui font des cadeaux et ça leur sert d'emballage. On peut tout faire.
Alors, je vais vous lire, parce que c'est... Alors, j'allais dire, votre introduction, c'est quand même une quintessence aussi. Vous avez mis beaucoup de choses dans votre introduction, je pense. Il y a vraiment une quintessence du message, de cet appel de l'imaginaire. Vous écrivez, pendant des générations, sous la férule des hussards noirs de la République, les écoliers ont appris à rêver devant les cartes de géographie immenses, évocatrices, de Vidal, La Blache, qui tapissaient les murs de leur classe. C'est vrai que quand on va en brocante, on est saisi devant ces fameuses cartes. Ils soupesaient de possibles itinéraires, reprenait mentalement le chemin, hésitait entre le plus rapide, le plus bucolique, le plus évident, le plus séduisant, le plus efficace, le plus buissonnier. Au milieu de ces abscisses et de ces ordonnées géographiques, entrer en ligne de compte des considérations capitales telles que l'emplacement des stations-service, des relais de poste, auberges, restaurants, ou reprendre ses forces. Alors, c'est vrai que vous me parlez d'une radiographie du corps vivant, Jean-Claude Raspienjas. Là, grâce à la carte, on a un outil de lecture, dans tous les sens du terme. Un outil de lecture visuel, tactile, j'allais dire. C'est comme une boussole.
Oui, c'est absolument. C'est une sorte d'encyclopédie. C'est une sorte d'encyclopédie géographique et historique. On n'a pas assez mesuré, puisqu'il est en train de disparaître de nos usages. Je ne parle pas de l'objet en lui-même. Je pense qu'il va perdurer, mais en tout cas de nos usages. Ça me fait penser, si vous voulez, à la formule d'Anna Arendt. Anna Arendt, elle déplorait ce qu'elle appelait le trésor perdu des expériences passées. Eh ben, c'est exactement ça. Si on laisse partir la carte routière, on est en train de perdre un trésor, et qui est celui des expériences passées. Au fil des générations, on a formé et tout ça. Ça me fait penser, si vous voulez, au mot du chef de la cartographie chez Michelin, qui s'appelle Philippe Sablérol, et qui était cartographe indépendant, car il y a beaucoup de cartographes indépendants. Ouais. Il est rentré chez Michelin, il en est le directeur de la cartographie, et il me disait, quand on rentre chez Michelin, en tout cas au service de la cartographie chez Michelin, on y rentre avec humilité d'abord, parce que l'histoire est plus grande que vous, mais surtout, il disait, on a devant soi un galet qui a été poli pendant plus de 120 ans par des artistes. Et franchement, quand vous ouvrez une carte une carte routière, c'est bien ça que vous voyez. Vous voyez le travail d'artistes, vous voyez le travail d'enlumineurs, vous voyez le travail de moines copistes qui sont derrière tout ça. Et je vais pas revenir là-dessus, mais enfin, je vais beaucoup y revenir. Le GPS vous offre pas ça du tout.
Non. Alors le GPS nous offre pas ça du tout, et vous d'ailleurs vous parlez sur le palimpseste des cartes routières, patchwork géologique et géographique, la marqueterie du vieux, de ce vieux pays, la marqueterie de ce vieux pays. Alors bon, il y a les, tout commence avec le pneu. Au commencement était le pneu, mais c'est vrai que moi j'ai pas pensé, mais grâce à vous, j'ai tilté. On circule sur de l'air. C'est très important, cette notion d'air dans les pneus, d'où Michelin. Alors, vous allez nous expliquer cette invention, y compris pour les vélos. Ça a été révolutionnaire.
Alors, votre étonnement, c'est le mien. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je connaissais rien à cette histoire. Je connaissais juste l'usage de la carte routière, qui était justement le mien, et puis celui des routiers avec qui j'avais partagé la vie. Mais je n'avais pas mesuré. C'est pour ça que j'ai appelé le premier chapitre au commencement était le pneu. Et je finis le chapitre en disant comment sera le pneu. Parce qu'en effet, quand j'ai découvert que tout était arrivé par l'invention de la chambre à air, le pneu existait avant, hein, le bandage plein et tout ça, mais quand ils ont mis au point la chambre à air, ça a été la vraie révolution. Et c'est la révolution du XXe siècle, elle passe par là. Donc on va retrouver très très vite les pneus à chambre à air sur les vélos.
Oui.
Ça va devenir une folie, il va y avoir des courses de légendes totalement folles pour prouver que la chambre à air c'est révolutionnaire. Après on se posait la question de, certes un homme sur un vélo avec de la chambre à air, c'est possible, mais sur une automobile dont c'était les débuts, voir les fiacres, c'est impossible. Et vous savez, les historiens disputent beaucoup de savoir à quel moment a réellement démarré le XXe siècle. Et bien moi, je prétends que le XXe siècle a démarré le mercredi 12 juin 1895 à Bordeaux. Alors pourquoi ouais. Pourquoi cette facétie ? C'est que simplement c'est la première course automobile qui fait Paris-Bordeaux-Paris. Et le premier qui arrive à Bordeaux, on s'aperçoit qu'il a roulé plus vite que les vélos qui avaient déjà fait cette course. Et donc là, tous les journaux sont stupéfaits. J'ai lu les journaux de l'époque, tout le monde s'étonne, et ils titrent tous « La voiture va plus vite, l'automobile va plus vite que le vélo ».
C'est fou.
Donc le XXe siècle commence là, et si je dis 1895, c'est que c'est aussi l'année du cinématographe. Et là où les frères Lumière inventent le cinématographe dans le quartier Montplaisir à Lyon, à 800 mètres de là, un jeune canu qui s'appelle Marius Berlier invente le moteur de poids lourd. Alors maintenant, imaginez le XXe siècle sans l'automobile, sans le cinématographe et sans les poids lourds. Car quoi qu'on en pense, aujourd'hui les poids lourds c'est 90% de tout ce qu'on produit et tout ce qu'on consomme passe par les poids lourds. On peut le déplorer, on peut le regretter, la réalité c'est celle-ci. Imaginez le XXe siècle sans ces trois éléments.
Ouais. Et alors vous décrivez ce qu'on croit, la folie vélocipédique. Alors, actuellement on a les pistes cyclables et c'est vrai que c'est pas toujours évident hein, de s'y retrouver. Vous écrivez 6 mois plus tard, l'été 1893, la cocarde décrit la cohue des cyclistes, hommes et femmes à la gaieté exubérante qui chaque dimanche débat bordent en avalanche sur les environs de Paris. Après, plus loin, justement, vous dites, le poète Jean Richepin invente et conjugue à tous les temps le verbe « bicyclétée ». Hein, c'est incroyable ça. On bicyclette donc, on pratique le bicyclettisme, on guidonne, on vélocipède, on véloce. Le mot pédalard traîne dans les conversations avant d'être abandonné. Donc on revient, grâce à vous, on a une vision, parce qu'on croit que les pistes cyclables c'est tout nouveau, tout beau, mais non.
Bien sûr que non. Là, c'est un retour vers le passé, là, en ce moment. Hein. Mais au début, si vous voulez, l'invention de la bicyclette a été beaucoup brocardée. C'est-à-dire, on pensait que c'était un truc pour les acrobates, tout juste destiné à amuser les enfants. Et à partir du moment où ils ont inventé la chambre à air, d'un seul coup, ça a été une explosion. Ça a été une libération, et surtout, quand même, ça marque la fin de quelque chose. Il faut se rendre compte, on arrive tout doucement vers la fin de la civilisation du cheval. Avec l'invention du vélo, puis de l'automobile qui va arriver tout de suite derrière, c'en est fini de la civilisation du cheval. Donc c'est très très important. Mais en effet, à partir du moment où on invente la chambre à air, d'un seul coup, parce que arrive avec la chambre à air un autre avantage, c'est le confort. Parce que jusqu'à présent, alors c'est pas que pour les vélos, mais pour les moyens de transport, notamment collectifs, c'était vraiment de l'ordre du tape-cul. Et d'ailleurs, si l'expression existe, c'est qu'elle a une vraie réalité, c'était une torture. Hein. Ouais. On était sur des pneus pleins, sur des roues de bois, cerclés de fer, et le moindre obstacle sur la route tournait à l'épreuve physique. Or, j'insiste beaucoup, le mot « route » du 19e siècle n'est pas le mot route du 21e siècle, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les routes du 19e, début du 20e, c'est des routes complètement défoncées, avec plein de fer, de bordes de verre, de morceaux de verre, des animaux, tout le monde sur la route. C'est des routes complètement défoncées pour une raison assez simple, c'est que les routes ont été délaissées parce que le chemin de fer est partout.
Alors en fait, aussi ce que vous nous montrez, Jean-Claude Raspienjas, c'est qu'il y a l'évolution de la carte routière, je précise. Première carte est née vers 1632, non, 1600, en 1600 et quel, la première carte. Hein. Mais on voit l'évolution et l'évolution du territoire aussi. C'est-à-dire plus le territoire, il y a la signalisation qui arrive, plus les cartes se modifient, bien sûr avec Michelin.
Alors avant même ces modifications-là de cartes routières, quand vous regardez les cartes de la fin du 19e et du début du 20e, vous voyez qu'il y a assez peu de routes en réalité, et que par contre le chemin de fer est partout. Le chemin de fer va partout. On a oublié ça. Hein. Et aujourd'hui, si vous superposez les cartes routières d'aujourd'hui avec les cartes de chemin de fer de la fin du 19e, eh ben, elles se recoupent presque. C'est-à-dire que les routes ont pris la place de ce qu'a été le chemin de fer. Et oui, on peut leur déplorer, et je suis le premier à le déplorer aussi. Mais...
Alors, les femmes à vélo, Jean-Claude Raspienjas, les femmes à vélo intriguent, dites-vous, on bute sur les mots. Comment les appeler ? Des pédaleuses, des pédalettes, des vélosseuses, des cyclistes, pour les différencier des cyclistes mâles, les chevaucheuses de l'acier, a écrit Mallarmé. Donc, moi, j'aime bien aussi, parce que vous, c'est une invitation à revisiter le vocabulaire, notre imaginaire.
Oui, oui, alors tous les mots que vous citez sont absolument pas les miens. Hein. C'est vraiment les mots de l'époque où on est perdu, personne ne sait exactement comment qualifier nos mais ça a été pareil donc sur le vélo. Pareil, on a beaucoup hésité sur le genre. Est-ce qu'on allait dire le vélo, la vélo ? Alors on a tranché, on a mis la bicyclette et le vélo. Voilà. Mais c'est très amusant de voir les errements de terminologie de l'époque où vraiment on ne sait même pas comment classer ces drôles d'appareils, ces drôles d'engins. Et en effet, alors les femmes, c'est un autre chapitre. Enfin, c'est un chapitre quasiment à soi seul sur l'impression que faisaient les femmes à vélo, l'effroi des hommes, et qui alors les insultaient, enfin je cite plusieurs passages dans les journaux, je parlais pas de la rue, dans les journaux, où les journalistes écrivaient des choses épouvantables sur l'allure des femmes à vélo, et même on était arrivé à un moment où certains considéraient qu'il y avait une sorte de troisième sexe. Il y avait les hommes, il y avait les femmes, et puis il y avait ce drôle de truc de femmes à vélo, mais qui était vraiment très très étrange, et qui était de l'ordre d'un troisième sexe un peu indéterminé, voilà.
C'est vrai que c'est... Alors, écrivain et artiste, dites-vous, sentis-je de cette nouvelle monture, je parle toujours de la bicyclette, hein, plus accessible et moins capricieuse que le cheval, Octave Mirbeau, Alphonse Daudet, Georges Courteline, Alfred Jarry, Alphonse Allais, Jules Renard, Séverine, Sarah Bernard, se montrent pédalant, accrochés à leur guidon. Ça, c'est marrant, parce que voilà, Jules Renard à vélo, par exemple...
Le plus étonnant de tout ça, c'est Émile Zola. Parce que Émile Zola, il a la cinquantaine bien tassée, Il a un vrai embonpoint, voilà. Alors le sport, c'était un peu comme Churchill, no sport. Sauf que Churchill avait été champion olympique. Mais pour des raisons sentimentales, il se trouve qu'il avait une maîtresse, il s'est mis à faire du vélo, et il est devenu un fou de vélo et un propagandiste du vélo. Mais c'est très étonnant de voir en effet la liste de ceux qui d'un seul coup ont épousé la petite reine.
Alors Zola, il est à la pointe, c'est un enragé de la bécane, hein, dit-on. Avec l'ardeur du néo-converti, Émile Zola, qui se flatte d'appartenir sur le tard à l'immense famille des pédaleurs, apporte son écho à la cause. Il finance la souscription des deux poteaux indicateurs à sortir de la mention dont d'Émile Zola. Parce que cette signalisation, il a fallu la faire et Émile Zola y a un peu participé.
Alors oui, alors lui, il s'est carrément mis dans le mouvement. Alors, on fait un saut dans le temps, c'est-à-dire que... Non, on fait un saut dans le temps parce que en 1912, les frères Michelin, qui sont un peu à l'origine de tout ça, les frères Michelin sont furieux parce qu'il n'y a pas de signalisation sur les routes. Par exemple... Juste un exemple, les seuls noms de lieux que vous avez dans les localités sont à la gare. Donc, et dès que vous sortez d'une ville, ou dès que vous voulez circuler, où que vous soyez, vous n'avez pas d'indication. Donc vous êtes totalement paumé. Or, les frères Michelin, ils poursuivent un seul objectif, hein, c'est de vendre du pneu. Donc pour vendre du pneu, bah, il faut que ça roule. Et donc pour que ça roule, il faut que ça soit bien indiqué. Donc ils mènent une campagne, et ils font du lobbying extrêmement actif, et ils lancent même une pétition en 1912, et ils réussissent un tour de génie, ils étaient très très forts hein, sur le lobbying, la publicité. Ils lancent donc une pétition pour que l'État accepte que les routes soient signalisées. Or l'État traînait des pieds. Donc ils montent cette pétition, et en 1912, il réussit son tour de force, c'est qu'il y a le salon de l'aéronautique naissant, et le président de la République, Armand Fallières, vient à ce salon, et il passe devant le stand Michelin. Alors, là aussi, précision, 1910-1912, il y a énormément de constructeurs automobiles, et énormément de fabricants de pneus. Les Michelin ne sont pas du tout les seuls, mais ils prennent beaucoup de place. Et quand il arrive devant le stand Michelin, on lui présente un cahier, il croit que c'est le livre d'or, il le signe, Or, il vient de signer lui-même la pétition sans le savoir. Et dès le lendemain dans la presse, les Michelin mettent des grands placards en disant « Faites comme le président de la République, signez la pétition ». Ils vont recueillir 200 000 signatures, ils vont aller au ministère de l'Intérieur avec plein de journalistes avec eux. Les huissiers vont s'opposer à leur arrivée, et là, ils vont se mettre à hurler, laisser passer la volonté populaire. Et là, les autorités vont plier, et là, Michelin va signaliser à outrance, mais ils ne seront pas les seuls, mais c'est les plus massifs. Et donc, au milieu de tout ce mouvement, donc tous ceux qui mettaient des panneaux mettaient don de machin, don de truc et tout ça. Donc, Émile Zola se met dans le mouvement, finance en effet deux poteaux et met don de monsieur Émile Zola.
Non, c'est vrai, mais alors là, toujours pas publicité, qui tenait le corps bien droit, mais sans raideur, gardez bien votre direction, sans effort, regardez à 10 pas devant vous, surtout ne vous retournez pas, surtout ne vous retournez pas. Mais ce que vous décrivez,
mais alors, précision là-dessus, qu'on comprenne bien la citation que vous venez de faire, c'est que simplement, l'usage d'un seul coup très populaire du vélo, mais ça s'apprenait. C'est-à-dire qu'il y avait des lieux de formation, il y avait des cercles sportifs où on vous apprenait à faire du vélo, ça n'était pas gagné, vraiment pas. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde sait en faire, mais ça a été au milieu du côté intrigant de l'arrivée de ce drôle d'engin, c'était quand même un drôle d'engin, on sortait du cheval quand même. On n'avait que le cheval ou à pied, ou les calèches, mais bon, c'était... Donc, comment maîtriser ce truc en fer qui pesait 20 kilos, enfin qui était assez mal commode en réalité. Hein. Et donc il y avait des grands cercles sportifs, mais avec beaucoup d'entraînement. Paris était farci de cercles d'apprentissage vélocipédique, et en effet ce que vous venez de lire était les conseils, les premiers conseils, donc restez droit, surtout pas se retourner. Voilà, c'était...
Ce qui est très présent dans votre livre, il y a une sorte de poétique. Ça me rappelle les dessins, les gravures de Robida, par exemple. Enfin, c'est cette France un peu désuète, mais qu'on retrouve aussi avec plein de poésie. C'est comme une BD. Voilà, c'est une BD avec plein de... Alors, ce qui est étonnant, bon, la saga Michelin. Bon, ça, c'est deux frères, hein, deux frères qui... Donc, il y a cette invention du pneu, hein. C'est Édouard et André Michelin. Vous dites, vont se muer en triomphateurs, ils ont prouvé qu'une automobile peut rouler sur l'air, longtemps sur tous les chemins. Alors il y a les premières courses de voitures. Première course de voiture. Déjà, les premières courses de vélo, oui. C'était quelque chose, parce que...
Oui, donc il faut s'arrêter. Oui, en effet, il faut s'arrêter sur les premières courses de vélo. Alors la première, la plus importante, c'est Paris-Brest-Paris, sans étape. Aller-retour, 1200 km, sur les routes que je viens de vous décrire, sur des engins qui font 21 kilos, il n'y a pas de lumière, il n'y a évidemment pas de dérailleur, oubliez les diététiciens et les masseurs, voilà, il n'y a pas. Donc, c'est des courses de folie, et là, c'est tout à fait passionnant, parce que les coureurs qui se sont alignés sur cette course, où il y avait énormément de coureurs, avaient des pneus à bandage plein, c'est-à-dire bourrés, quoi, et puis surtout qui collaient à la jante. Et les Michelin décident de s'aligner avec leurs pneus à air, c'est les premiers. Et en disant, on va voir ce que ça donne. Eux sont persuadés qu'ils tiennent la clé de l'avenir. Et donc, ils vont chercher un coureur qui, au départ, ne veut pas. Et puis, ils finissent par le convaincre. Et il part. Il n'est pas du tout le favori de la course. Et c'est lui qui va gagner. À partir de ce moment-là, les Michelin vont faire une grande campagne en disant, voilà, on peut rouler sur l'air. Mais on les prenait pour des farfelus. Personne ne croyait qu'on pouvait rouler sur l'air. Alors, évidemment, sur cette course Paris-Brest-Paris, ils ont tous crevé, ils ont tous... Mais le problème, l'avantage aussi, outre le confort du pneu à air, c'est qu'il était très facilement réparable. Alors que les autres pneus qui se cassaient, qui se fendillaient, il fallait des heures pour les réparer, et le manuel technique faisait 60 pages.
Parce qu'il y a des, enfin, ce que je vous dis, c'est, il y a des anecdotes, hein. Le nombre de voitures autorisées à s'inscrire étant limité, les frères Michelin décident d'en annuler trois au départ de Paris. Une seule parviendra dans la capitale, châssis Peugeot, moteur Daimler et l'éclair. Aucun conducteur sollicité par les Michelin n'accepte d'en prendre le volant. Au patron de s'y coller, ils se relayeront pendant tout le parcours. Il y a un côté aventure, il y a un côté, c'est comme l'aviation, en fait.
Oui, alors là, on est passé des courses de vélo à la première course automobile. Et, oui, mais complètement, c'était, Il y a quelque chose d'assez fascinant de voir l'effervescence de la fin du 19e et du début du 20e et tous ces gens qui étaient des aventuriers de tout. Il y avait aucune limite à ce désir de progrès, on avançait vers le siècle avec une euphorie. C'est ça aussi, c'est qu'on sent qu'il y avait une euphorie, un optimisme, un enthousiasme dont on a guère idée aujourd'hui.
Moi non, et j'avais pas idée non plus, moi j'avais pas tilté, c'est encore un mot qui me revient là aujourd'hui, que il y a 6000 fiacres qui ont roulé sur pneus. Et ça c'est, alors conquis, dites-vous, les Parisiens les surnomment les salons à roulettes. Et ça c'est, on a oublié tout ça.
non seulement on a oublié, c'est que avant que justement les Michelin arrivent à convaincre, parce qu'ils ont eu beaucoup d'opposition, ouais. À partir du moment où ils ont montré que le vélo c'était possible, que la voiture c'était possible, ils se sont dit mais le marché du fiacre. Donc là aussi opposition. Les anciens propriétaires de fiacres leur ont crevé les pneus. Enfin, ils ont eu beaucoup d'hostilité. Mais les Parisiens ont tout de suite adopté parce que c'était d'un confort dont ils n'avaient jamais eu la sensation. C'est-à-dire, il n'y avait pas de là, c'était fini le tape-cul. Et donc là, ça les a beaucoup impressionnés et ils ont conquis totalement le marché et l'esprit des Parisiens.
D'ailleurs, après, André Michelin dégaine, le pneu Michelin a vaincu le rail. Ça, c'est pour... Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on pouvait... Alors, ça va, c'est progressivement, cette aventure. Bon, c'est lié aux frères Michelin, bien sûr, mais c'est progressif. Donc, une idée, on amène une autre, on amène une autre, on amène une autre. On pouvait appeler, je fais encore un saut dans le temps, on pouvait appeler, je pense, leur service. Et on pouvait avoir un itinéraire. On n'avait pas d'imprimante, on n'avait pas d'ordinateur, mais on avait un itinéraire très précis qui était fait sur mesure, ça aussi.
Oui, je rappelle à nouveau, enfin je le refais, c'est que ils sont pas les seuls à ce moment-là. Il y a beaucoup de fabricants de pneus. Ils sont pas les seuls, mais c'est les plus ingénieux, c'est les plus malins, c'est les plus c'est des visionnaires. Hein. C'est des visionnaires. Et en effet, alors vous dites un saut dans le temps. En réalité, on recule un petit peu parce que mais c'est important les dates parce qu'on voit comment les choses s'enchaînent vite. 1900 par exemple, c'est eux qui inventent le guide rouge. Oui, on est en 1900. Hein. Il y a 3000 voitures. Et il distribue le guide rouge qu'il refait chaque année à 35 000 personnes, 35 000 garages. D'accord ? Donc ça veut dire qu'ils ont quand même une idée que ça va vraiment se déclencher. On a parlé de la signalisation à partir de 1912, mais le bureau des itinéraires, ce dont on va parler c'est là, c'est 1908. Donc 1900 guide rouge, 1908 le bureau des itinéraires, 1912 la signalisation. Première carte routière Michelin 1910, et ils cartographient toute la France en 1913. Ils ont fini de la cartographier, mais ils sont pas non plus les seuls. Sur tous les endroits où ils vont, ils sont pas les seuls. Mais ils vont tout réussir. Donc, bureau des itinéraires, le principe est assez simple. Donc 1908, il n'y a aucune indication sur les routes, hein, rappelez-vous. Vous savez pas où vous allez, il n'y a aucune indication. Donc, ils montent le bureau des itinéraires, le principe est simple. Vous dites, voilà, je pars de Paris à Bordeaux, si vous voulez, voilà. Comment j'y vais? J'ai pas d'indication. À ce moment-là, il y a un bureau qui va regarder dans toutes les cartes dont dispose Michelin et toutes les informations qu'ont les Michelin, et ils vont vous envoyer gratuitement votre itinéraire, kilomètre par kilomètre, avec tous les obstacles, avec tout ce qu'il faut éviter, par où il faut passer, et tout ça. Et si bien que sur certains itinéraires, vous pouviez recevoir plus d'une centaine de pages. Et alors, ça a eu un succès considérable. Donc, 1908, il commence. Et en 1925, on en est à 155 000 demandes par an. Et vous avez, dans ce bureau, 120 employés, dont beaucoup sont des licenciés en histoire et en géographie, qui vous donnent le parcours.
Bon, on va faire une petite pause musicale, parce que j'avoue que ça nous donne envie de partir, et en même temps, envie aussi beaucoup de rêverie.
Oui, puisqu'il faut que l'on quitte Paris gris et mouillé, puisque l'automne nous invite par les chemins rouillés, n'hésitons pas, chérie, la porte d'Italie qui s'ouvre devant nous, comme un livre d'images nous invite au voyage, le bonheur est au bout. Allons à Dijon, dans la cour du château, allons à Mâcon, boire le vin nouveau, allons voir les toits de Beaune, les quais de Chalon-sur-Saône. Allons jusqu'à Lyon, voir le Rhône couler, jusqu'à Avignon, sur le pont écroulé, et puis vers Aix-en-Provence, sur les routes de France, comme il fait bon rouler. Oh, le vieux port de Marseille, les martigots matins, Arles au coucher du soleil, près de ton bord romain. N'hésitons pas, chérie, la Camargue infinie nous entraîne plus loin, vers Nîmes et les arènes, les temples, les fontaines, la tour et les jardins. Voici Perpignan, où les nuits sont nacrées, voici Frontignan, où la vigne est sucrée. Voyons Béziers et Narbonne, les remparts de Carcassonne. Allons voir à Tarbes, les Durand, nos amis. Allons voir à Pau, notre bon roi Henri. Et vers Bayonne, où l'on danse, sur la route de France, comme il fait bon, chérie. vois la Bordeaux, la Gironde, les allées de Tourny, le théâtre, les quinconces et les grands vins choisis. N'hésitons pas, chérie, goûtons les cèpes frits et le château Margaux. Qu'il fait bon, je vous aime, filons vers Angoulême qui nous attend là-haut. Bonjour La Rochelle et son port endormi, la mer sous le ciel qui s'agite et gémit. Et puis voici nonchalante la noire aux portes de Nantes. Flânons sur ses bords, visitons les châteaux Chinon et Chambord, Cheverny, Chenonceau. Partout c'est la vie qui danse sur les routes de France.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Jean-Claude Raspien-Jas, pour La France à la carte, vient de paraître aux éditions des Équateurs. Alors Jean-Claude Raspien-Jas, c'est vrai que moi je pars dans tous les sens, excusez-moi, je suis un peu un électron libre, donc je vous parle, on parle de 1912, enfin on fait des rétropédalages et puis on avance dans le temps. Il y a alors, et on parlait d'Édouard et d'André Michelin, donc cette fameuse, leur fameuse invention, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs. Il y a le pneu, il y a le guide Michelin, il y a la signalisation, et puis il y a un personnage de bande dessinée, le Bibendum. Vous dites Bibendum, le doudou des automobilistes, et c'est un dessinateur de presse, je crois, qui s'appelle Marius Rossillon, alias Au Galop, qui le dessine. Alors, il faut vraiment que vous nous parliez de ce Bibendum.
Alors, nouveau saut dans le temps. Ouais. Encore, on retourne encore en arrière. Bibendum, il naît en 1898. Alors, l'origine de Bibendum, elle est assez simple en réalité, mais comme beaucoup de leurs inventions, il se trouve qu'il y a un salon de l'automobile à Lyon, en 1897, et les frères Michelin y vont, et ils ont un stand parmi plein d'autres stands de fabricants de pneus. Et quand ils arrivent, ils voient leurs pneus, des pneus empilés, ouais, mais qui sont blancs. Alors on se dit, mais pourquoi? Parce que Bibendum, il est blanc. Oui, totalement, il est immaculé. Ouais. Pourquoi? Parce que le pneu, au départ, est un objet de luxe. Ah. Ça coûte très cher, tout coûte très cher. Il n'y a que les aristos et les très très grands bourgeois qui peuvent se payer tout ça. Donc, ils sont immaculés parce qu'ils sont enveloppés dans de la soie blanche. Chaque pneu est livré dans... Donc, l'empilement des pneus, et l'un des deux frères dit à l'autre, mais regarde, si on mettait des bras et une tête, ça ferait un personnage. Donc, ils convoquent un certain nombre de dessinateurs de l'époque. C'est la grande époque des affiches colorées. Hein.
Oui, oui.
Et ils font venir, et parmi ceux qui viennent, il y a en effet Marius Rossillon, qui est très connu dans la presse parce qu'il signe Au Galop. Et Au Galop, il vient et il leur montre une série de dessins qu'il a fait, et notamment un qu'il a fait pour un brasseur allemand de bière, qui est un personnage pantagruéli, qui déborde de partout. Il leur dit, ben, j'ai ça, mais ça a été refusé par un brasseur allemand. Et puis, et là, les frères Michelin sautent en l'air en disant, mais attendez, nous, ça nous intéresse. Alors, vous revenez, vous travaillez autour de l'idée du pneu et revenez. Et donc, quand il revient, il a inventé Bibendum. Alors, Bibendum, ça vient de debout. Ça veut dire, maintenant, il faut boire. Puisque c'est en rapport toujours avec son brasseur allemand. Et pourquoi les Michelin reprennent le slogan? Parce que eux disent, mais le pneu, l'avantage du pneu arrière, c'est qu'il a un avantage sur les autres, c'est qu'il boit l'obstacle. Voilà, et ça part de là. Et Bibendum a resté Bibendum.
Et oui, et puis on le voit partout, vous dites, c'est une citation que vous faites. Bibendum a une personnalité bien nette, bien accusée, telle une création littéraire, il vit dans l'esprit des masses. C'est vrai qu'il y a une identification, on pourrait presque parler de génération. C'est vraiment, voilà, vous dites au bureau, Bibendum est encore là, sur les encriers, les crayons, les stylos, les buvards. En voiture, il orne les cartes et les guides Michelin et les briquets. Et vous dites même qu'il y a eu un jeu des sept familles décliné en bibolide, bibolraille, enfin toute la famille Bibendum.
Oui, alors Bibendum, il est très élastique. Il se prête à tout. C'est-à-dire que quand vous regardez les déclinaisons de Bibendum, c'est infini. C'est-à-dire qu'on lui fait tout faire, tout faire, tout faire. Alors il a commencé de façon assez marrante, c'est-à-dire qu'il a ressemblé à ses premiers clients. C'est-à-dire qu'il était très enveloppé, il fumait le cigare, il portait le monocle et il ressemblait à ses clients. Et puis peu à peu, au fil du temps, il a subi des cures de rajeunissement. C'est le Dorian Gray du bitume, hein. Il n'arrête pas de rajeunir. Il est devenu de plus en plus athlétique. Ses pneus ont dégonflé, sont devenus plus fins, voilà. Et puis vous le voyez tout faire. C'est-à-dire, il pilote des avions, il fait des courses de moto. Et alors, dans cette sorte de folie autour de Bibendum, il y a même eu un moment où on lui a fait rencontrer une Madame Bibendum qui ressemblait vraiment à Monsieur Bibendum. Ils ont eu un petit Bibendum qui ressemblait vraiment à ses parents. Enfin, c'était un peu enfantillage, ce qui est resté, c'est évidemment le personnage Bibendum. Il a tellement marqué les esprits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu longtemps où les camionneurs avaient des Bibendum sur le toit de leur camion. Mais il a tellement marqué les esprits qu'il a été élu logo publicitaire du siècle à la fin du XXe siècle, par un jury international de publicistes, et c'est aussi le logo le plus reconnu au monde. Mais il s'est même adapté selon les latitudes. C'est-à-dire que, par exemple, Bibendum au Japon, qui est très connu, ressemble à un sumo. En Grèce, il ressemble au Colosse de Rhodes. En Espagne, il a les allures d'un toréador. Enfin, il se prête à tout. C'est un personnage totalement élastique. Voilà.
Formidable. Et sur la route, dites-vous, il guette l'automobiliste dans les garages, les stations-service. Il est chez lui. Et dans ces années-là, Bibendum occupe le temps de cerveau humain disponible, comme dirait l'autre. Et puis, vous citez, il y a une citation de Michel Tournier. Hein, Michel Tournier, très bel écrivain. Bibendum, écrit le romancier Michel Tournier, allie des formes rebondies avec une surprenante légèreté. Il a la douceur majestueuse et blanche des nuages. Ça, c'est... Et on le compare même à Neil Armstrong.
Oui, mais il se prête à tout. Toutes les identifications. Et de tous les âges et de toutes les générations. Les enfants adorent Bibendum. Les aînés aussi. Enfin, tout le monde a adopté. C'est pour ça que je dis c'est le doudou des automobilistes. Mais oui, parce que c'est un personnage qui a toujours été aimé.
Et vous dites aussi qu'un journaliste de l'ORTF, Jacques Salberg, en découvrant en direct, je crois, c'est extraordinaire, il fait penser au bonhomme Michelin quand il voit les premiers pas de l'homme sur la Lune.
Oui, c'est ça. Oui, pardon, j'avais pas répondu à votre question. C'est ça, exactement. Je sais pas si vous imaginez. On est là, on regarde les premiers pas de l'homme sur la Lune. Enfin, je veux dire, et d'un seul coup, vous avez le commentateur qui dit « Ah, mais il ressemble à Bibendum !» Vous savez, quand il descend du module lunaire et qu'il va sauter sur le sol de la Lune, le premier commentaire, enfin, c'est un commentaire historique, le premier homme sur la Lune, est-ce que vous imaginez, tout de suite, on parle de Bibendum. C'est vous dire à quel point l'aura de ce personnage fictif, enfin, de cet objet publicitaire, a envahi les esprits.
Ouais. Alors, bon, on va parler des guides, parce que nous sommes dans Bibliomanie, nous sommes des papivores, Jean-Claude Raspienjas. Alors, moi, je voudrais connaître vos sources de documents. Est-ce que vous êtes un cartophile? Parce que quand même, vous avez l'histoire de ces guides, en commençant par les guides Michelin, mais il y en a eu d'autres, hein, tous ces guides qui font le territoire, qui retracent le territoire, suivent l'histoire de France. Alors comment vous êtes documenté beaucoup pour... est-ce que vous êtes un collectionneur de cartes, par exemple?
Pas du tout. J'appartiens pas du tout à ce monde-là. J'étais juste un usager de cartes routières, et encore, j'allais dire de moins en moins, puisque, comme tout le monde, je cède à la facilité du GPS. Et alors aujourd'hui, je reconsidère un peu tout ça, maintenant que j'ai un peu exploré tout ça. Non, mais j'ai fait des recherches, je suis allé beaucoup en bibliothèque, j'ai pris beaucoup de plaisir à remonter tout ça, et plus j'avançais, plus j'avais de plaisir, et donc le plaisir entraînant le plaisir, je cherchais de plus en plus, et voilà, c'est ça. Non, je suis parti comme ça, et j'ai remonté l'histoire.
Alors, vous nous parlez, donc en 1926, ça fait 100 ans, hein, les Lances, donc c'est les guides régionaux, surnommés guides verts, à couverture rouge, jusqu'en 1946. Ce qui est très intéressant aussi, ce que vous nous montrez, c'est que ces guides, je parle de l'histoire, ne seront pas les mêmes après, par exemple, 1945, après et avant. C'est très intéressant. C'est presque un témoin sociologique de l'évolution du territoire français.
Oui, parce qu'il faut... Alors d'abord, les guides Michelin, là encore, ils n'ont rien inventé. Avant eux, au 19e siècle, il y avait les guides Johann, il y avait les Badecker, il y avait des guides. Il y avait le guide du Touring Club de France. Donc ils n'ont pas inventé. Mais leur astuce, c'est d'avoir inventé, donc je vous ai dit, le guide rouge en 1900. Alors le guide rouge, c'est quoi? C'est les plans de ville et c'est ce qui peut vous attendre si vous allez dans des hôtelleries, des restaurants, où on vous dit à peu près si c'est bien, si c'est pas bien. Eux font ça en 1900. Et donc en 1926, ils inventent le guide vert, mais ils inventent le guide vert à cause de la saturation du bureau des itinéraires. Et le guide vert, lui, c'est un guide touristique, historique, architectural, voilà, qui complète. Donc ils ont un trépied, ils ont les cartes routières, ils ont le guide rouge pour la gastronomie et l'hôtellerie, et ils ont le guide vert pour l'exploration touristique, la découverte historique, les points de vue à voir. Donc ils ont un vrai trépied. Mais toujours pareil, n'oubliez jamais la fonction première, et c'est pour ça qu'ils l'ont emporté, c'est qu'ils avaient une nécessité industrielle qui les poussait à faire tout ça, qui était de vendre des pneus. Et donc, je répète, pour vendre des pneus, il faut que ça roule. Donc, pour que ça roule, il faut donner l'envie de rouler. Donc, tous ces objets-là servaient à donner envie de rouler, de partir. C'était, ce qui est extraordinaire, c'est que le moteur de toute cette aventure, c'est vendre du pneu.
Oui, mais en même temps, c'est aussi, ça fait un effet domino, Jean-Claude Raspiajas, oui. Parce que vous dites, il faudra un demi-siècle jusqu'en 1976 pour couvrir la France entière de toutes les formes de son patrimoine. Le guide vert traduit l'ouverture des Français à leur propre patrimoine, révèle la manière dont ils l'ont visité, résume Jean-Baptiste Passé, le directeur des général des éditions Michelin. Par-delà ça aussi, il y a c'est une vision très particulière, c'est-à-dire qui évolue. C'est ça qui est très intéressant, qui évolue au fil du temps. Par exemple, comment on a fait, je reviens à la carte, alors le guide vert, on en a parlé, mais le guide Michelin, après-guerre, il y a vraiment des constats aussi, des dégâts de la guerre. Ça, c'est très important. Il y a avant, après, il y a des commentaires. C'est pas neutre.
Alors, juste avant la fin de la guerre, il se trouve aussi que, à la fois les cartes routières, et le guide rouge a servi à la fois aux nazis pour envahir la France. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient calculé leur plan d'invasion à partir des cartes Michelin et des guides rouges. Et pourquoi les guides rouges? Pour savoir exactement comment c'était dans les villes qu'ils allaient envahir, ce qu'ils allaient trouver et tout ça. Et les alliés, pour le débarquement, ont aussi travaillé sur les cartes routières et le guide rouge. Les officiers qui ont sauté sur les côtes normandes le jour du débarquement, le 6 juin 1944, avaient le guide rouge dans leur paquetage. Ils avaient le guide rouge de 1939, que les services secrets américains ont photocopié, ont imprimé et ont donné aux officiers. Donc tous ceux qui ont sauté, enfin les officiers qui ont débarqué le 6 juin 44 sur les côtes normandes avaient dans leur paquetage le guide rouge et ils avaient les cartes routières Michelin pour se diriger. Puisqu'évidemment, effet de la guerre, les nazis avaient enlevé tous les panneaux, avaient fait en sorte que tout le monde se perde. Or, ils avaient ça. Et quand ils sont arrivés jusqu'à Paris, ils ont demandé à Michelin de sortir plein de cartes pour aller sur le front de l'Est et libérer l'Allemagne. Et là, c'est pareil. En une semaine, alors qu'il n'y avait plus de papier et plus rien, les Michelin ont sorti plus d'une centaine de milliers de cartes pour aider à la progression des Alliés.
Ouais. Alors vous écrivez, une rubrique fait son apparition, il y a et il n'y a pas. Sur les plans des grands nombres de villes, on lit selon les quartiers, les bâtiments détruits, sinistrés, réquisitionnés. Les pages consacrées à Caen révèlent et détaillent l'étendue de l'horreur. Les quartiers ouest et ceux de la périphérie sont seuls à peu près intacts. Tout le reste de la ville, soit 8000 immeubles sur 10 000, est détruit et endommagé. Vous dites, le guide 1945 se lit comme l'inventaire méthodique des destructions. Et c'est pour ça que c'est une lecture très instructive aussi pour les historiens et même pour tout lecteur.
Alors vous avez aussi ces indications-là sur les cartes. Ouais. Et c'est vrai que quand je disais que c'était un livre d'histoire et un traité d'histoire, oui, quand vous regardez les cartes de 1946, c'est foudroyant de voir l'état de la destruction. Et vous avez la photographie, le polaroïde des destructions de la France, ouais, qui sont consignées, qui sont marquées. Et c'est vrai qu'elles sont pas assez étudiées. Il y a que les carteux, ce qu'on appelle les carteux, c'est les collectionneurs fous de cartes routières, qui savent lire ça, qui savent voir comment le pays a évolué, s'est transformé en regardant les cartes. Et c'est ça, les cartes sont leur source d'interprétation de l'évolution du pays.
Alors pour les guides aussi, c'est la gastronomie, hein. Ça suit la gastronomie. Il y a aussi l'évolution de la gastronomie, de l'art de vivre en France, qui suit l'évolution des guides.
Et entre autres, dès l'origine du guide, la grande campagne que mène plusieurs guides, dont le Michelin, mais c'est pas le seul, contre les punaises de lit. Oh. Car c'est le grand fléau, le grand fléau de l'époque. Et même pour revenir au premier guide 1900 début, il y avait plus d'indications sur les dépôts d'essence que sur les hôtels. Parce qu'à l'époque, on circulait avec des bidons d'essence de 5 litres. Et qu'on trouvait partout, qu'on trouvait chez les pharmaciens, chez les quincaillers, j'ai même trouvé à Quimper chez un arquebusier, chez le maréchal Ferrand. La grande difficulté, c'était de se ravitailler en essence à l'époque. Et donc, le guide rouge est un vrai répertoire de stockistes, comme on disait, vous pouvez y aller. Même chez les boulangers, vous aviez des bidons d'essence de 5 litres. Et peu à peu, vous voyez au fil du temps que cette information finit par disparaître. Vous voyez est arrivé, les premières stations-service. Enfin, quand vous remontez comme ça, en lisant le guide, vous voyez l'évolution de la France et comment elle se déploie dans ces nouvelles technologies.
Ouais,
et dans les nouveaux usages, et dans le tourisme, et dans les déplacements. Enfin, c'est tout à fait passionnant.
Et puis, il y a plein d'autres guides. Il y a le guide Julliard, le guide Goemio, le guide Kléber, le guide Rouge. Vous dites, c'est l'insubmersible depuis 1900. J'ai aussi le guide Joanne,
oui.
qui est très détaillé, qui pourrait faire le bonheur des romanciers.
Alors, le guide de Joanne, qui est évidemment très connu, va s'arrêter avec la guerre parce qu'il a un peu fricoté avec les Allemands, avec les nazis. Mais surtout, le guide Joanne, il avait une particularité. D'abord, il avait été fait par un géographe. Mais et surtout, il s'intéressait au tourisme par chemin de fer. Et c'est là aussi la bascule. La bascule, c'est qu'on va quitter l'univers du guide Joanne, vers le guide rouge Michelin, et on passe du chemin de fer à l'automobile.
Ah oui, ça c'est passionnant. Alors les cartes. Vous décrivez, alors il y a la carte de l'état-major, la carte du service vicinal, la carte des ministères des travaux publics. Le tracé, il faut quand même, c'est un métier. Je crois que vous en avez, vous rencontrez à un moment donné quelqu'un qui dessine. Qui vraiment, vous faites des rencontres hein, en cours d'écriture. On sent que vous faites des rencontres, Jean-Claude Raspienjas. Racontez-nous un peu ces rencontres avec les gens qui quand même consacrent leur vie à l'infiniment, je dirais dans l'infiniment petit, pour décrire l'infiniment grand. Mais enfin, c'est cette notion d'échelle, c'est très important.
Oui, alors j'ai rencontré plusieurs cartographes, et qui est un métier de l'ombre. Hein. Personne ne connaît les cartographes. Or, ils font un travail d'une méticulosité, d'une précision absolue, avec beaucoup de contraintes. C'est pour ça que je disais, ils avaient d'ailleurs le statut... Jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils avaient le statut d'artiste. On appelait ça des artistes cartographes.
Ouais.
Tellement leur travail était précis, c'était des orfèvres du détail. Hein. Alors, une des grandes difficultés, c'était évidemment de respecter les échelles. Alors, il faut juste quand même donner une petite précision, c'est que sur toutes les cartes routières, quelles qu'elles soient, il y a une tricherie.
Mmh.
C'est-à-dire que vous avez une échelle, alors l'échelle, l'étalon chez Michelin, c'est le 1 200 000, c'est-à-dire 1 cm égale 2 km. Les dessins des routes, on ne respecte pas cette échelle. Parce que si on respectait cette échelle, les routes feraient... Si on reportait dans la réalité l'échelle du dessin des routes, c'est des routes qui feraient 500 mètres de large, enfin, plus que ça. Donc, ce qu'on appelle chez les cartographes, on appelle ça la déformation et la généralisation. Voilà. Mais savoir dessiner, c'était déjà une chose, parce que c'était vraiment des dessins très très fins. Mais ensuite, il fallait placer les noms de lieux. Et là, ce qu'on appelle la toponymie. Et là, c'est d'une complication. Et puis surtout, il fallait que ce soit toujours le même registre. Et il faisait ça à la main. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le travail. C'est un travail obscur. C'est un travail très, très long. C'est pour ça, le côté moine copiste, c'est une bonne expression. Et en même temps, enlumineur. Parce qu'ils arrivent à l'arrivée à quelque chose qui s'apparente à une œuvre d'art.
Ouais.
Même si elle est faite de façon industrielle, c'est une œuvre d'art.
Julien Perron, c'est un carteux ou un carteux ?
Oh, c'est un carteux, lui.
Voilà, c'est un carteux, hein, parce qu'il y a des rencontres, voilà. Mais c'est vrai que vous montrez... Alors, par exemple, il y a les petites... pour les montagnes, pour représenter les montagnes, à un moment donné, vous dites, c'est comme des petits triangles partout, enfin...
Oui, alors il y a plein de petits signaux pour marquer les différences, si c'est des forêts, si c'est des montagnes, si c'est une région où il y a beaucoup de fleuves ou de cours d'eau. Enfin, il y a toute une signalétique propre à la carte routière qui se décline sur la carte routière et il faut quand même que l'automobiliste sache aussi les lire.
Alors je crois que vous citez là Julien Perron, justement, la départementale est parfois bombée, parfois sans accotement, elle vogue dans la campagne, ondule paresseusement, vire inopinément, traverse un bois qui fait de l'ombre, longe un étang où se restaure un héron cendré, puis un labour en forme de hanche féminine, des fleurs en poussée entre les herbes, des pacotés, Non, ça c'est Donitine que je suis. Hein, je dis, c'était une trop belle phrase pour que ça soit je reprends. Longe un étang, restaure un héron cendré, puis un labour en forme de hanche féminine, des fleurs en poussée entre les herbes, des bas-côtés, on se gave de bucolisme. Denis Tinidac, voilà. Et vous citez des écrivains, vous citez Victor Hugo aussi pour le chemin de fer, je pense.
Non, alors Victor Hugo, je le cite pour deux problèmes du 19e, dont le 20e a hérité, c'est l'inconfort.
Ouais.
Il se plaint beaucoup dans ses récits de voyage de l'inconfort des calèches, et il se plaint énormément des punaises de lit.
Je connais, on connaît les punaises de lit. Et puis vous citez aussi Lillois, le temps où l'on apprenait à lire, à découvrir la géographie avec le Tour de France par deux enfants, livre de lecture courante illustré de gravures instructives. C'est vrai que voilà, c'est toute une poésie de l'espace qui se met en place. J'aimerais qu'on parle d'une route très importante, c'est la Nationale 7.
Oui, alors National 7, quand j'ai avancé dans ce travail, à un moment, il m'est apparu, j'ai compris que j'étais en train de faire une sorte d'histoire culturelle du déplacement, du tourisme, des congés payés, et j'ai vu très vite se dessiner l'axe majeur de cette grande époque qu'on a appelée les Trente Glorieuses, et c'était la National 7, où tout le monde partait sur National, tout le monde, pour parler vite évidemment, puisque c'était celle qui cumulait le plus d'embouteillages, tout le monde partait vers la Méditerranée. Or, moi je suis du Sud-Ouest, et mon tropisme n'est pas du tout vers la Méditerranée, donc je n'avais jamais pris la National 7. Mais quand j'ai vu se dessiner cet axe majeur des Trente Glorieuses, je me suis dit, ce serait intéressant d'aller voir ce que c'est, quoi, la National 7, je la connaissais pas.
1926 encore.
Oui, c'est ça. Et comme je la connaissais pas, j'avais la tête farcie de références, évidemment, de la chanson de traînée, des films, des reportages, les marronniers de l'été qui étaient les embouteillages de la National 7. Enfin, je partais avec tout ça, comme ça, en tête, en me disant, on va voir. Très très vite, au bout d'une centaine de kilomètres en partant de Paris, ça a été la désillusion totale. D'abord, National 7 n'existe quasiment plus. Elle existe sur quelques tronçons, mais elle a 13 noms différents entre Paris et Menton, c'est les 1000 kilomètres, ce qui avait donné lieu d'ailleurs à ce jeu très populaire qui était les 1000 bornes, et les 1000 bornes étaient une allusion à la National 7, puisque Paris-Menton c'est près de 1000 kilomètres. Et elle a 13 noms différents, c'est-à-dire qu'elle a été déclassée comme la plupart des nationales, elle est devenue une départementale, et elle change quasiment de chiffres, presque par département. Enfin, il n'y a pas de continuité sur la carte routière de la Nationale 7, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où elle a été tronçonnée. Et ce que vous voyez à nouveau sur la carte correspond à une réalité, c'est-à-dire que la Nationale 7 a disparu dans ce qu'était son folklore, sa réalité, les restaurants ont fermé, les estaminets n'existent plus, vous avez beaucoup de vestiges, c'est plus du tout ça. Et il y a un air de tristesse aujourd'hui qui se dégage de la Nationale 7 comme une sorte d'âge d'or qui s'est retiré, qui n'est plus là. Et j'ai éprouvé une grande tristesse à faire ce qui était les restes de la Nationale 7. Alors j'ai rencontré plein de gens sur la route, hein, pour qu'ils m'expliquent, qu'ils me parlent. Et alors vous avez beaucoup, beaucoup de nostalgiques de la Nationale 7 qui essaient de faire revivre certains éléments de la Nationale 7, notamment les embouteillages. Alors vous avez des associations qui, chaque année, l'été, organisent des embouteillages monstres avec les véhicules de l'époque des Trente Glorieuses, donc les Dinas, les Parres, les Arondes, les DS, les Versailles. Et alors, ils viennent en habit d'époque, en habit des Trente Glorieuses. Vous avez des gendarmes, des faux gendarmes qui arrivent comme ça et qui rejouent la maréchaussée des années 70, qui se mettent en colère, qui a des coups de sifflet, tout ça. Ça attire un monde fou. Il y a encore plus de badauds qui se marrent que de gens qui défilent en rigolant aussi. Et dans les deux sens, et on bloque, c'est des bouts de National 7 pour faire ça. Et sur plusieurs endroits de National 7, sur les 1000 kilomètres, il y a 3 ou 4 embouteillages organisés chaque été et qui ont un succès fou.
C'est fou, vous dites. Par moments, comme à La Palisse, dans l'Allier, des fresques murales rappellent le passé des embouteillages qui n'est plus qu'une lointaine réminiscence et alimente la mythologie des temps heureux. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'avant et l'après, et vous revenez. Je dirais presque que vous topographiez à votre tour, vous cartographiez cette histoire de la cartographie.
Oui, et vous aviez des passages obligés, par exemple Montélimar, on savait très très bien quand on prenait la Nationale 7 à l'époque que par exemple à Montélimar, mais ça n'était pas le seul endroit, vous étiez parti pour avoir au moins 3 heures d'embouteillage. Sauf que, les habitants de Montélimar sont des malins. Et ils sont associés au nougat.
Voilà.
Donc ce qu'ils faisaient pendant les embouteillages, c'est qu'ils venaient avec des paniers en osier, un peu comme les ouvreuses des cinémas, vous savez, autrefois, et ils distribuaient, ils vendaient leur nougat. Mais l'astuce ne s'arrête pas là. C'est qu'ils avaient très très bien compris qu'il valait mieux que leurs échoppes et la vente de nougat soient sur le côté droit de la route vers la Méditerranée, au départ des vacances. Parce qu'au retour, les vacanciers, voilà, n'avaient plus d'argent, ils avaient épuisé, et c'était pas une peine d'essayer de leur fourguer du nougat. Voilà. Donc, la plupart des échoppes étaient sur le côté droit, et ils allaient aux portières avec leur panier en osier pour vendre du nougat.
À chaque fois, voilà, il y a la petite et la grande histoire. Vous dites aussi, ce monde des travailleurs itinérants sur la Nationale 7 avait ses habitudes chez ses grands-parents. C'est vrai qu'il y a des étapes, et ces étapes de la vie familiale sont très importantes.
Oui, et notamment, par exemple, les stations-service. Alors là, j'ai retrouvé en route et sans savoir, hein, simplement en roulant et en regardant, je suis tombé sur 2-3 stations-service qui ont été réhabilitées, qui avaient été détruites ou qui avaient été abandonnées, et certains fondus de la National 7, des associations, ont reconstruit ces stations-service, les ont remises à l'identique, organisent des rassemblements de voitures anciennes et font en sorte que revivent des bribes de l'esprit de ce qu'a pu être la National 7. Mais à partir du moment où on a ouvert l'autoroute la 7, ça a été fini. Par exemple, pour reprendre Montélimar, le jour même où on a ouvert l'autoroute au large de Montélimar, 90% du chiffre d'affaires des fabricants de nougat est tombé.
Oui. On va faire une pause musicale.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux National 7, on est heureux National 7, on est heureux National 7.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, vous écoutez toujours l'émission Bibliomanie en présence de Jean-Claude Raspienjas pour La France à la carte, ça vient de paraître aux éditions des Équateurs. Alors, Jean-Claude Raspienjas, là nous voyageons, nous avons voyagé sur la National 7, vous écrivez « La route n'est pas que la route, elle charrie tout un imaginaire, transporte vos vies vers des ailleurs intérieurs, fait naître en nous des vagues de rêveries datées qui ont le pouvoir nous submergeant de nous emporter loin et longtemps. Le spleen hante le souvenir de la National 7. » Il y a un peu de nostalgie chez vous, on pourrait dire, dans votre livre, mais moi, je n'ai pas tellement senti la nostalgie, j'ai plutôt senti le bonheur de la cueillette, de la flânerie, de cueillir des moments heureux, familiaux, historiques. Vous savez, c'est comme une rêverie, finalement, une rêverie sur le motif.
Bah écoutez, vous me faites vraiment très plaisir, parce que, en effet, c'est ça. C'est-à-dire que plus j'ai avancé dans l'enquête, je vous l'ai dit, je connaissais rien à cette histoire, et plus j'ai avancé, plus en effet, j'avais un plaisir fou à découvrir, et les découvertes entraînant les découvertes, plus j'avançais, en effet, c'était moins la nostalgie. Moi, je ne l'ai pas connu, National 7, donc je ne pouvais pas avoir de nostalgie de quelque chose que je n'avais pas connu. Mais en revanche, oui, toutes les découvertes, les rencontres que je faisais sur la route, j'avais un énorme plaisir à ça. Et après, la difficulté était de traduire ça, d'essayer de rendre ça avec le même enrichissement que j'en avais retiré. Mais vous me faites plaisir, parce que c'est ça, ouais.
C'est... Alors, on peut dire que la carte routière, c'est un peu votre Madeleine de Proust, mais c'est un révélateur. Voilà, on dirait que toutes ces sillons, ces bifurcations vous rappellent, vous connectent, puisqu'on parle de connexion à souvenir. Alors la différence, puisqu'on a un peu jappé notre ami le GPS, quelle est la différence entre une carte routière et un GPS? D'abord, une carte routière vous laisse libre de choisir, et puis je dirais que la carte parle en distance et non pas en durée.
Alors, pour que les choses soient claires, on ne va pas opposer le GPS à la carte routière, encore que. Mais bon, le GPS est absolument indispensable, vous voyez, pour venir jusqu'à votre studio. Et au moment où vous m'avez retrouvé, j'avais le nez sur mon GPS pour trouver l'adresse que m'aviez donné, le rendez-vous que m'aviez donné. Et donc c'est indispensable. Et en plus, si vous voulez, on utilise le GPS, mais 5 à 10 fois par jour, sans même se rendre compte. Je vais faire un raccourci, après je reviendrai à votre question, mais... Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a autant regardé les cartes tous les jours en ayant cessé de savoir les déchiffrer.
C'est un problème.
C'est-à-dire que si vous prenez votre téléphone, vous utilisez, mais 4-5 fois par jour le GPS pour aller dans un endroit ou un autre, que ce soit une boulangerie, pas celle que vous connaissez d'habitude, mais une boulangerie, un libraire, un restaurant, un cinéma, enfin, que sais-je. On regarde la carte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, sur les téléphones. Alors, la différence, c'est que le GPS, donc, est devenu indispensable, mais simplement, c'est un objet totalement réducteur. On s'en rend pas compte.
Il a une voix.
Alors, il a une voix dans le meilleur des cas, mais surtout, il vous condamne au pur présent de votre regard, c'est-à-dire sur le trajet, sur le tronçon sur lequel vous êtes. Il a perdu l'origine de votre truc, et il ne vous montre pas dans le même regard la destination. Il n'a aucune mémoire. Il vous a fait perdre quelque chose qui est un héritage de siècles d'humanité, qui est le sens de l'orientation.
Ouais, c'est ça.
Vous ne savez pas où vous êtes. Hein. Il ne vous donne pas le sens de l'orientation. Et c'est considérable. Hein. C'est-à-dire que là, quand on parlait du trésor perdu des expériences passées, perdre le sens de l'orientation, c'est vertigineux. La seule direction qu'il vous indique, c'est celle que vous avez déjà pris vous-même. On ne peut pas dire que... Voilà. Il ne garde pas la mémoire de vos trajets. Et puis, en effet, il a aboli, mais alors ça, c'est très symptomatique de l'époque, il a aboli la distance physique au profit du temps, qui est une donnée de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout le temps lié au temps. Mais il y a quand même une sacrée différence entre dire « je vais faire 80 km, 300 km » que de dire « je vais faire 2 heures ou 3 heures ». C'est-à-dire que dire « je vais faire 80 km ou 300 km », vous sentez physiquement ce que ça peut représenter. Si vous dites « je fais 2 heures ou 3 heures de route », ça se dilue dans le temps général qui est le vôtre. Vous voyez ? Et puis, il y a quand même un truc sur lequel moi j'ai envie d'insister, c'est que c'est un signal inquiétant, enfin c'est un élément de plus de la servitude volontaire dans laquelle on s'est mis, puisqu'en effet on n'est plus maître de son destin, que le rapport qu'a le GPS avec vous est un rapport de domination, c'est-à-dire qu'il vous donne des ordres combinatoires. Tournez à droite, tournez à gauche, faites demi-tour. Vous en remettez à une machine qui décide pour vous de ce que vous devez faire et qui ne vous offre aucune alternative. Alors que quand vous ouvrez une carte routière, le principe même, c'est que vous n'avez que des alternatives sous les yeux. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous êtes maître de votre trajet, de votre destin. Vous voulez aller au plus vite, ben vous prenez cette route. Vous avez envie d'aller voir là. Si vous avez envie de musarder, ben la carte routière vous indique comment musarder, par où vous passez, et tout ça. Et elle garde la mémoire. C'est-à-dire, si vous l'ouvrez, vous retrouvez votre passé, vos vacances familiales, votre enfance. Enfin, c'est un conservatoire aussi de votre propre histoire familiale, personnelle, et aussi de l'histoire collective. Le GPS, il vous offre rien de tout ça. Et puis la carte routière, elle n'a pas un rapport combinatoire et de domination avec vous. La carte routière, elle ne vous parle pas à l'impératif de subordination. Elle vous laisse libre. Enfin, ouais. C'est un des plus grands instruments de liberté, c'est la carte routière. Pourquoi on abandonne ça?
Mais en plus, je dirais que la carte, est aussi, il faut d'abord, il y a aussi la notion d'apprentissage. Vous dites, en réalité, 5 générations de cartes routières, toutes numérotées, avec une lettre, se sont succédées chez Michelin, par exemple, on vous dit. Mais c'est vrai, alors là, je pense, quand j'enseignais, je demandais toujours aux élèves de 3e de fabriquer une carte avant la fin de l'année scolaire. Dresser une carte, c'est apprendre la rigueur, la rendre ressemblante, bien agencée, facile à lire, instructive, et d'une présentation agréable. Dessiner une carte, je ne sais plus si maintenant les jeunes savent dessiner une carte. Est-ce qu'on sait lire une carte, Jean-Claude Raspienjas?
Non, c'est fini. Par exemple, je rencontre des jeunes journalistes, ils n'ont jamais utilisé une carte routière, ils considèrent que c'est... Enfin, ils sont effarés, quoi, en disant, mais ça existe toujours, ce genre de truc. J'étais, il n'y a pas si longtemps, dans une station de radio d'autoroute. Et il y avait des routiers qui téléphonaient, qui évidemment les utilisent, et certains étaient des formateurs, et expliquaient que les jeunes routier d'aujourd'hui, on ne leur apprend pas à lire une carte routière. Alors, imaginons quand même, d'abord on s'en remet à des algorithmes américains, qui ont une qui ont une visée mercantile, hein. C'est-à-dire que le GPS, il vous donne toujours des adresses de restaurants, des commerces, tout ça. Vous savez quand même que sur les GPS, si on étend l'échelle, le cadastre, il y a 90% de la France qui est invisibilisée sur les GPS. D'accord ? Mais quand même, faut savoir ça quand même. Hein. Mais imaginons qu'il y a un énorme bug informatique. Mm-hmm. Imaginons, et c'est pas une vue de l'esprit, une guerre informatique. Qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'est-ce qui va se passer quand on a une population qui se prive d'un moyen de connaissance ? C'est un moyen de connaissance, la carte routière. Donc si vous ne savez plus la lire, qu'est-ce que vous faites ?
On fait. C'est ça, c'est un gros problème hein, qui est soulevé. Alors vous dites que les cartographes sont une petite corporation. Et auparavant, fabriquer une carte prenait 5 ans, aujourd'hui quelques mois. Donc l'intelligence artificielle va... Comment se modifient les cartes ? Comment évolue la cartographie ? Comment ça évolue ?
Alors, il y a eu une révolution dans le. Alors, juste une chose, à l'heure, vous avez cité quelqu'un qui disait si j'enseigne dans les, oui. dans les cartes. Alors, moi, je ne suis pas enseignant, c'est un des carteux. Alors, pour expliquer à vos auditeurs pourquoi on emploie ce mot de carteux, c'est qu'il y a évidemment toute une peuplade de collectionneurs d'objets Michelin, et cette peuplade, elle se divise en 7 familles, et ceux qui sont au sommet, les plus importants, enfin les plus, l'aristocratie des collectionneurs de chez Michelin, c'est ce qu'on appelle les carteux, c'est-à-dire les spécialistes des cartes routières, et qui sont sensationnels, c'est-à-dire que c'est des chartistes, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance, c'est des historiens, c'est des géographes, c'est des poètes, alors faut voir, hein, c'est pas juste des collectionneurs de cartes, ils lisent les cartes comme vous lisez un livre ou une partition, et ils sont tout à fait passionnants, et donc c'est l'un de ces carteux qui m'explique, il a été longtemps professeur et chef d'établissement, et lui demandait encore à ses élèves de savoir dessiner des cartes en disant que c'était une école de patience, de connaissances, d'histoire et tout ça. Dans le monde des cartographes, il y a eu une révolution totale qui s'est jouée en 2 ans. Et je connais peu de professions, j'aurais du mal à vous en donner d'autres, où tout s'est joué en 2 ans. C'est 1990. De 1990 à 1992, le monde des cartographes qui traçait tout à la main, on est passé à l'informatique. Et là, ils se sont retrouvés comme des charpentiers dont les instruments, dont les outils ne serviraient plus à rien. Donc ils n'avaient plus de métier. Ils ne comprenaient pas leur nouveau métier, ils pouvaient pas l'exercer, donc ils perdaient leur emploi. Et notamment le patron de la cartographie actuelle chez Michelin s'est retrouvé lui dans cette situation. Il était cartographe indépendant et en 2 ans il s'est retrouvé sans rien comprendre de comment on pouvait faire des cartes. Il est aujourd'hui le chef de la cartographie Michelin, donc il a su faire ses révolutions. Mais il racontait que quand il finissait ses études à la Société de Géographie, à l'Institut de Géographie, fin des années 80. Il y avait un Macintosh qui traînait dans une pièce, et un des professeurs leur avait dit, vous voyez, ce truc-là, il n'est pas exclu qu'un jour, peut-être, lointain, on fasse des cartes avec un ordinateur, mais franchement, c'est pas demain la veille. Ça s'est joué en 2 ans.
Voilà. C'est fou, quoi. Est-ce qu'il y a aussi la notion d'anticipation? Vous en parlez? C'est important dans le métier actuel qui a évolué, la cartographie.
Oui, parce que la cartographie, c'est un peu, j'allais dire, comme un enfantement. C'est-à-dire, entre le moment où vous achetez la carte et le moment où elle a été dessinée, il s'écoule 9 mois. Donc, quand eux ont fini leur travail, et vous l'achetez 9 mois après, le jour où vous l'achetez, il faut qu'elle soit parfaitement actualisée. Donc, ils sont donc obligés d'anticiper et de prévoir le moment 9 mois après où en seront réellement les routes. Donc, il y a une observation très, très fine et très pointue, avec des centaines de contacts à travers la France, des sources d'informations tout à fait pointues, pour faire en sorte qu'au moment où ils vont vendre la carte, elles changent chaque année, hein, elles sont renouvelées chaque année, 9 mois plus tard, tout soit parfait.
Ah, ok. Vous dites aussi, alors l'IGN, c'est engouffré dans la révolution numérique, mais actuellement il y a des cartes pour les randonneurs, les promeneurs, il y a peut-être pour les vélos aussi, voilà. Vous, par exemple, vous avez quel type de carte utilisez-vous, Jean-Claude Raspiergias?
Moi, la carte routière, et aussi, j'adore faire de la randonnée, et donc j'ai des cartes IGN. Alors les cartes IGN, d'abord, alors c'est un institut public, ouais. Michelin c'est privé, et eux, si vous voulez, ont hérité des cartes d'état-major. Et aujourd'hui, les cartes grand public de l'IGN ne représentent que 10% de leur activité, hein, de l'activité de l'IGN. Elle fait surtout un travail étatique. Hein. Mais c'est pareil, à un moment, l'IGN s'est mis en concurrence avec Michelin pour les cartes routières. Et ils ont jeté l'éponge assez rapidement parce qu'ils ont considéré que Michelin, c'était la perfection, que c'était pas la peine. En revanche, eux, ils se sont mis sur le marché de la randonnée, pour ce qui est du grand public, hein. Ils se sont mis sur le marché de la randonnée et les fameuses cartes de randonnée de l'hygiène sont indispensables. Et il faut bien comprendre que si vous prenez une carte hygiène de randonnée, c'est même pas la peine de l'utiliser pour votre voiture. C'est même pas la peine. Ouais, elle servira à rien. Ouais, de la même façon, si vous voulez faire de la randonnée avec une carte routière Michelin, c'est même pas la peine, ça ne servira à rien non plus. Donc vous voyez, il y a un partage des tâches qui est assez intéressant, qui s'est développé et...
Puisqu'on est dans une émission littéraire, est-ce que votre intérêt justement pour la carte, la cartographie, la carte routière, vient aussi de votre admiration pour certains écrivains? Je pense par exemple, je ne sais pas si vous admirez Julien Gracq, je suppose, mais il y a peut-être des écrivains qui sont des géographes aussi, qui décrivent le paysage et qui vous ont peut-être amené justement à faire, on pourrait dire que votre livre c'est un éloge du vagabondage aussi.
Ah ben évidemment, oui, bien sûr. Bah Julien Gracq, il était sur mon bureau. De la même façon, les écrits de Vidal de la Blache, oui. c'est magnifique. Mais c'est magnifique, Vidal de la Blache. Donc j'avais ça aussi, mais j'avais aussi Tillina. Enfin, j'avais tous ces écrivains aussi qui ont su décrire la France. Enfin, je pourrais faire la liste là, mais bien sûr qu'il y avait ça.
Blondin, ça, par exemple.
Bah bien sûr, Blondin. Enfin, il y en a plein que je pourrais citer. Un que vous avez reçu il y a pas si longtemps, Thomas Morales. Il y a, vous voyez. Enfin, je pourrais en citer plein. Il y avait aussi Sylvain Tesson pour son Il y avait Jacques Lacarrière, qui lui n'a pas fait ça en voiture, il a fait ça à pied, mais sa description de la France à pied m'a aussi servi, enfin vous voyez. Et il y avait aussi Christian Bobin qui a rien écrit, oui, sur les cartes routières, mais il y avait Christian Bobin, il y avait...
Alors voilà, vous citez Christian Bobin, parce qu'il y a plein de routes, il y a plein de chemins dans votre livre, Jean-Claude Raspiajas, et il y a des citations. Le monde est rempli de visions qui attendent nos yeux, les présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux. Ça, c'est Christian Bobin.
Alors, justement, j'ai pris cette citation magnifique de Christian Bobin, parce que pour moi, elle est... Il n'a pas écrit dans cet esprit-là, mais pour moi, c'est l'incarnation même de ce que représente le GPS. C'est-à-dire que le GPS vous prive de regard. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que vous ne regardez pas la route quand vous regardez le GPS. Vous regardez l'écran. Et c'est aussi une indication de ce qu'est devenue l'humanité. C'est-à-dire que si vous vous promenez aujourd'hui dans la rue, vous voyez bien que tout le monde a le nez sur son écran et ne regarde plus. Alors que la carte routière vous donne déjà un goût du paysage... Une envie de paysage vous décrit le paysage à l'avance, alors que le GPS ne fait que vous donner une direction. Il ne vous incite pas à la rêverie. Ce qui est beau aussi avec la carte routière, c'est que c'est un objet de rêverie, c'est un objet de poésie. Le GPS, il n'y a aucune poésie.
Un peu des questions sur votre écriture, Jean-Claude Raspiajas. Comment écrivez-vous? Est-ce que vous avez besoin d'être entouré de votre cartographie personnelle, des auteurs qui vous sont chers? Comment s'organise un peu votre travail d'écriture?
Alors, cartographie, vous avez raison, pour ce livre-ci, mais je l'avais aussi fait pour les routiers, j'avais placardé dans mon bureau des grandes cartes que je regardais tout le temps. Enfin, dès que j'avais une chute de motivation ou d'inspiration, j'avais le nez sur la carte, je regardais, je me laissais guider précisément par ce dessin-là qui vous entraîne à la rêverie. J'ai toujours 2-3 dictionnaires sous le coude. Ça, j'ai les dictionnaires. Si un jour je devais partir dans une île déserte, ce que j'emporterai, c'est le dictionnaire. Voilà. Parce que tout y est.
Ouais. C'est un peu comme la carte, hein.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tout y est. Vous prenez un dictionnaire, tout y est. C'est pas, voilà. Non, puis des auteurs. Non, mais moi, je glane. Il se trouve que je suis par ailleurs aussi critique littéraire, donc je lis beaucoup. Ouais. Voilà. Enfin, j'avais mes quelques auteurs de prédilection, mais je picore. Vous savez, un critique littéraire, vous le savez bien. On est des abeilles, on butine. On essaie de polliniser autant que faire se peut. Voilà, j'étais un peu aussi dans cette démarche-là. Ouais.
À quoi vous ressemble votre bibliothèque? Ça, je pose souvent cette question à mes invités. C'est une bibliothèque, justement. Ça, est-ce qu'elle est en ordre, en désordre? Est-ce qu'il y a plusieurs bibliothèques, une en ville, une autre ailleurs? Enfin.
Alors justement, la fascination que j'ai pour les cartes routières, c'est que c'est un monde ordonné. Bon, je suis principalement, moi, l'exemple même du désordre. Voilà. Je ne vis bien que dans mon désordre, et il ne faut pas y toucher. Mais non, je suis tout sauf ordonné. Donc, vous savez, vous êtes toujours fasciné par ce qui est votre contraire. Donc, les cartographes me fascinent, la cartographie me fascine, parce que là, vous avez l'exemple même d'un objet réussi, totalement ordonné. Là, pour le coup, il n'y a pas de fantaisie. Il faut vraiment que ce soit impeccable, hein.
Oui, mais ce qui vous fascine aussi, c'est peut-être la précision. C'est peut-être aussi ce qui vous fascine en écriture.
Oui, bien sûr. Mais en plus, moi, j'ai plutôt une fascination pour le style. C'est-à-dire que c'est pas les histoires qui m'intéressent, comme critique littéraire, même comme lecteur. les histoires, il y en a partout. Il y a mille façons de raconter les choses, mais moi, mon premier critère de plaisir, d'appréciation, c'est d'être embarqué par un style, voilà, par une voix, par quelque chose d'original, quelque chose de différent, quelque chose de singulier. Et à partir de là, on peut me raconter ce qu'on veut. À partir du moment où on a su m'attraper par le style, c'est gagné.
Est-ce que vous vous souvenez de premiers souvenirs littéraires, première lecture, est-ce que vous avez... Quelles ont été vos premières lectures ? Je les mets au pluriel, comme ça.
Écoutez, j'ai envie, presque pour m'amuser, de parler de vraiment des toutes premières lectures, c'est-à-dire l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire que... Alors là, on va faire un bond en arrière. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais moi, ça m'amuse toujours de raconter ça. Moi, j'ai commencé par Roudoudou et Rikiki. Ah. Voilà. Et j'avais appris le mot « aubaine ». Dans Roudoudou et Rikiki, parce qu'il y avait un des deux qui trouvait un chien et qui disait à l'autre, ah ben j'ai trouvé ça, et l'autre lui disait, c'est une belle aubaine. Ben voilà, c'est quoi ça? Et pareil, dans les Pinicles, j'avais découvert le mot compensation. Et alors là, les Pinicles étaient dans une chambre d'hôtel, ils étaient allés se laver dans la salle de bain, il n'y avait pas de serviette, ils avaient pris un rideau, ils s'étaient essuyés avec ça, ils disaient, ben on mettra la couverture en guise de compensation. Je dis, c'est quoi? Donc vous voyez, ça, j'aurais pu vous dire Flaubert, tout ça, mais vous me demandez les tout premiers souvenirs de lecture, et bien c'est ça qui remonte.
Quand on parle cartographie, je pense aussi à Jules Verne, je pense à Zola. Vous êtes aussi journaliste. Est-ce que vous avez ce côté enquêteur aussi? Parce que Zola, qu'est-ce qu'il a? Il allait sur le terrain, hein, et il photographiait même.
Ah, mais moi, moi, j'ai aucun esprit romanesque. Hein. Donc, moi, j'ai besoin de m'appuyer sur le réel pour écrire. Ça. Donc, j'ai fait une grosse enquête. Puis surtout, j'ai une devise dans mon métier là de journaliste, parce que par ailleurs, je suis reporter. C'est faut aller voir, faut toujours aller voir. Toujours, toujours. Et quand vous allez voir, eh ben, tout est toujours différent de ce que vous avez imaginé. Et de toute façon, le réel est un réservoir de surprises, de découvertes, de rencontres. Donc moi, j'ai vraiment besoin de ça, oui.
Il y a des musées de la carte, on peut...
Musée de la carte, exactement. De carte routière, non, j'en connais pas. Enfin, non.
Ça va se créer, peut-être.
Je suis pas tout à fait sûr. Alors, vous avez évidemment le musée Michelin à Clermont-Ferrand, mais... dont l'histoire de la carte n'est qu'une toute petite partie de l'aventure Michelin, puisque l'aventure Michelin, c'est aussi quand même les routes, les pneus, les automobiles, enfin, c'est vraiment dédié aux pneus, quoi, à l'aventure du pneu.
Non, mais je crois pas,
enfin, peut-être, mais alors vraiment, j'ai pas connaissance de musée. Hein.
Est-ce qu'il y a une différence avec des cartes italiennes, des cartes espagnoles?
Je suis pas allé voir, les cartographes m'en ont parlé, de ces différences-là, mais à partir du moment où je me suis dit, je reste sur la France, puis après tout, notre lot commun, c'est-à-dire nos souvenirs communs, c'est ça, j'ai pas voulu m'aventurer sur des cartes que je connais pas, sur des univers que je connais pas, sur des géographies qui me sont pas forcément familières. Donc, je me suis dit, c'est déjà assez vaste comme ça de s'occuper de la France. Je me suis pas aventuré, risqué à aller faire des comparaisons.
Ouais. Est-ce que vous avez des échos déjà de lecteurs? Vous parlez beaucoup des routiers, hein, qui sont quand même des personnages. Peut-être qu'un jour ils n'existeront plus, je ne sais pas. Mais le routier, c'est vous vous dites, ce sont les seuls. Les seuls lecteurs de cartes actuellement, enfin les.
En tout cas, ce sont les je sais pas si c'est les seuls lecteurs, non, mais en tout cas, c'est les plus grands utilisateurs. Voilà. Et comme c'est les professionnels de la route, à partir du moment où ils m'ont dit, nous, les cartes routières, on ne peut pas s'en séparer, ça a fait tilt, quoi. Si les professionnels de la route vous disent, attention, ça, nous, les cartes routières, on ne peut pas s'en passer, je ne vois pas pourquoi on s'en passerait, nous. Voilà.
La question, c'était, je ne sais plus, c'était, voyez, nous mène la carte. Non, je vous parlais, est-ce qu'il y a des lecteurs? Vous avez des réactions de lecteurs?
Oui, j'ai pas mal de réactions, enfin, je suis même très très surpris, et ce qui domine dans les réactions, c'est vraiment, tout le monde me raconte son histoire personnelle. Ah oui. Et ça, je l'avais pas anticipé, je n'avais pas pensé à ça. Tout le monde me parle de ses souvenirs avec ses parents qui s'engueulent, avec des souvenirs de vacances, avec les enfants qui étaient chargés de suivre la carte routière. Enfin, tout le monde a des souvenirs très personnels, très intimes de l'utilisation de la carte routière et de la place de la carte routière dans ses souvenirs.
Et des fois des engueulades familiales.
Oui. Ah, mais ça, c'est le grand classique de la carte routière. Alors ça, c'est le grand classique. Alors s'il y a un avantage au GPS, s'il a apporté un bout de paix dans les ménages, parce qu'on s'engueule plus autour du GPS, sauf peut-être à reprocher, mais t'as pas mis la bonne référence, mais en tout cas, oui, mais la carte routière, c'est un classique de l'engueulade en famille. Ça, c'est le grand classique, ça. Hein.
C'est celui qui lit la carte qui a le pouvoir familial.
Oui, enfin, il a surtout le pouvoir de se faire engueuler. Ouais. Mais, ce qui me frappe, c'est ça, c'est un rendez-vous intime, enfin les lecteurs ont un rendez-vous avec leur propre histoire et évidemment je ne l'avais pas anticipé.
Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que dans votre famille, il y a des cartes que vous avez gardées de votre père, votre grand-père, parce que les cartes se transmettent d'une génération à l'autre. Moi je me souviens très bien, chez mes parents, il y a des cartes, par exemple, les cartes accordéon, des cartes, vous voyez, il y a toutes sortes de cartes, la carte objet.
Mais bien sûr, mais dans toutes les armoires familiales, ils traînent des cartes, hein. Ça se transmet en effet de génération en génération, mais même sans l'idée de les transmettre. C'est-à-dire, on ne jette pas les cartes. On les garde comme étant des souvenirs, des traces du passé. C'est très surprenant. Dans toutes les familles, vous avez des cartes qui traînent, qui ne sont plus utilisées, mais qui traînent, qui sont là, et on s'en sépare pas.
Je crois que la dernière référence de votre livre, Jean-Claude Raspiaget, je pense que c'est, ça devait être Houellebecq, la carte et le territoire.
La dernière, c'est Bobin.
C'est Bobin. Oui. Parce que j'ai l'impression que vous dites finalement, qu'est-ce qui est plus important, la carte ou le territoire, et le territoire est redessiné par la carte. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le style ou les, enfin voilà.
C'est... Non, ce que je dis, c'est que, évoquant, j'évoque en effet Houellebecq, mais pas tout à fait à la fin, mais surtout, je dis attention, il y a un changement qui s'est opéré avec le GPS. C'est que comme on ne regarde plus, d'où la citation de Bobin, il y en a. Ouais. Tout est à voir, on n'a plus de Dieu pour regarder. C'est que je dis attention, la carte est devenue le territoire.
Voilà. Et en fait, Bobin, c'est la présence au monde, oui. L'écoute, l'éveil, l'essence aussi.
Oui, mais surtout le regard. Regardez, c'est ça qui est dit, Bobin. Regardez, tout est là, et vous n'avez plus Dieu. Et le GPS, c'est ça. Regardez, tout est là, mais tout est fait pour que vous ne voyez rien.
Nous sommes à la veille des vacances, il y a aussi une autre carte, c'est la carte postale. Est-ce que vous allez sur certaines cartes postales, il y a des bouts de cartes, parfois, il y a des zooms, où on fait sur une région. Est-ce que vous êtes un amateur aussi de cartes postales, Jean-Claude Raspiaget?
J'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai abandonné l'usage de la carte postale. Ouais. Et je m'en suis remis à la machine, c'est-à-dire SMS ou courriel.
Votre carte idéale, c'est laquelle?
Il y en a plein. Bien évidemment, celle de mon coin de sud-ouest, mais il y a aussi la très très belle carte de France. Alors, il y en a une qui me manquait beaucoup, que j'avais vue il y a quelques années, puis je l'avais vue disparaître. Et là, je vois que chez Michelin, il la réactualise, enfin, il la ressort alors qu'il ne la sortait pas, qui est la carte des chemins de fer.
Ah oui.
Alors ça fait mon bonheur. Elle est sortie il y a quelques semaines, et ça fait mon bonheur. J'ai placardé chez moi, je l'ai là, et évidemment, je l'emporte. J'en ai 2-3 exemplaires, et je l'emporte maintenant, parce que je suis un grand amateur de train, par ailleurs. Et je trouve que parce que là, c'est pareil. Le GPS vous montre la progression du train, il n'y a pas de souci. Mais il vous montre la progression du train là où le train est. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir par où passent les trains, où pourraient être les correspondances, avoir une vision générale de l'endroit où je peux me situer et où je peux aller. Et ça, il y a encore que la carte routière qui vous le donne.
Donc je suppose que parfois vous écrivez en rêvassant aussi sur une carte. Vous savez, les mauvais élèves, des fois, ou les bons élèves rêvassent.
Ah ben oui, mais de toute façon, franchement, quand vous écrivez, si vous ne rêvassez pas, c'est pas la peine d'y aller. Hein.
C'est pas la peine. Votre projet, est-ce que vous avez un projet d'écriture en cours, Jean-Claude Raspiaget, ou vous préférez ne pas en parler?
Non, je suis entre les deux. C'est-à-dire que j'ai une idée qui me trotte en tête, mais elle n'est pas encore assez élaborée pour que je m'y lance. Mais moi, je me lance que quand je suis vraiment obsédé. C'est-à-dire que quand je finis par ne plus penser qu'à ça. Et là, je me dis, c'est bon signe. Et quand vous êtes dans un livre, enfin, tous ceux qui sont déjà passés à votre micro ont dû le dire, on pense qu'à ça, quoi. On pense qu'à ça. C'est-à-dire, tout est subordonné à ce travail qui avance en vous et avec ses ramifications, ses vérifications, ses impasses, tout ça. Et ça aussi, ça fait partie du plaisir. Être obsédé par un livre à écrire ou en train de s'écrire, c'est un vrai bonheur, quelles que soient les affres par lesquelles on peut traverser. Mais en tout cas, on est en train de faire quelque chose et c'est l'écriture qui vous mène. Donc, il n'y a pas de quoi se plaindre.
Bon, merci à vous, Jean-Claude Raspiaget, pour La France à la carte. Ça vient de paraître aux éditions des Équateurs. Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main.
un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés.
C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Toute belle histoire a une fin et l'émission Bibliomanie consacrée à Jean-Claude Raspien-Jas et à son nouvel opus La France à la carte, publié aux éditions Équateur, est à présent terminée. Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Claude Raspien-Jas, qui est aussi journaliste, grand reporter et critique littéraire, vous pouvez vous procurer en librairie ou en bibliothèque son livre sur Bertrand Tavernier, publié en 2001 chez Flammarion, ou bien encore lire l'ouvrage qu'il a consacré au routier en 2020 aux éditions de l'Iconoclaste et qui s'intitule tout simplement « Routier ». Pour ma part, je vous conseille vivement de lire « Une vie sur l'eau, le monde des bateliers » paru aux éditions de l'Iconoclaste en 2022. Un livre riche en bifurcations et en rencontres insolites. En attendant, vous pouvez réécouter ou télécharger cet entretien sur le site de Radio Libertaire. C'est ce qu'on appelle un podcast ou bien encore la radio à la carte. Bonne écoute à tous et à la fois prochaine.
La guerre, sournoiserie nucléaire, sous-marin de poche revolver, bonbon napalm, goût chimique, panoplie de sapeurs panique. On n'arrête pas l'imaginaire pour se faire sauter la cafetière. 100 fois de quoi s'envoyer en l'air, de quoi descendre le soleil, de quoi éteindre le ciel. C'est moi le plus fort nananère. Quel pâté on vous a mis? Des tonnes et des tonnes de fer dans la chair ennemie. Mais tapez la chair confrère, vous n'étiez pas mal non plus. Cette fois c'est la der des der, avant la prochaine bien entendu. Les huiles ainsi s'en vont signant des traités aux petits oignons. Après avoir saigné à blanc, se partage terre et pognon, trace des frontières bidons. Secret de nos piteux états, l'argent est roi et marche au pas. Tambourin soufi, frais tirelire. Une, deux, une, deux et trois. À quatre, on tire dans le tas. Machine de guerre dans les hangars de la mémoire. Basta, cessant de croiser le fer. Plus de boucherie, plus d'abattoir. Maintenant on va baisser le store. Laisser la connerie au vestiaire. Y'a plus d'amateurs pour ce sport. Plus personne sous les bannières.
Pourquoi pas la belle utopie? Faites un bilan professionnel, une reconversion réussie. Faites-vous la paire, faites-vous la belle.
Engagez-vous dans le parti qui déclare la guerre à la guerre. Sortez-vous le nez du kaki.
Il y a des tonnes
de choses à faire avec votre matos et votre génie pour remettre en état la terre. Rangez tous vos affreux joujoux, faites tourner le calumet
et foutez-nous la paix.
Ce matin, je t'ai vu dans le fond de mon bol de cacao. T'embrassais un bison trapu du Colorado. J'ai largué tes foutues affaires dans l'enclos du ranch. Un coup de colt et le feu toi a fait danser les comanches. Hier soir, t'as fui avec le clown du rodéo. J'en viens pas, comme si j'avais été pris au lasso. Ah oh, mauvais western, j'ai le cœur qui débloque. Ah oh, voix de coyote, ça m'a fait un choc. Faut que je me souvienne de t'oublier. Le monde s'arrêtera pas de tourner. Yeah, 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 yeah. Dans la nuit, il est venu t'embarquer sur son cheval. Au galop, en plein désert, sous une lune d'opale. Bang bang, j'ai tiré à grands coups de revolver. Comme un fou, sur les collines, les cactus et les pierres. T'es perdu dans les bras velus d'un clown au nez rouge. À l'air triste, barbouillé de maquillage comme un peau rouge. Ah oh, mauvais western, j'ai le cœur qui débloque. Ah oh, voix de coyote, ça m'a fait un choc. Ah oh, cobaye solitaire qui perd son froc. Tu me rappelleras de t'oublier. Le monde s'arrête. Ma tournée, yeah, 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 yeah. Hier soir, t'as fui avec le clown du rodéo.
la voix. Jouer jusqu'à me brûler les doigts. Danser pour conjurer le sort. Baiser pour dépasser la mort. J'aime sentir la vie cogner dans ma poitrine quand je suis en vitrine. J'aimerais décoller encore avant qu'on change le décor. Avant de passer à la caisse, avant de glisser sous la presse. Bats-toi, 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 bats-toi. Chanter jusqu'au bout de mon souffle. Jouer sur les larmes et le soufre. Danser pour oublier le pire. Baiser simplement par plaisir. J'aime sentir ton corps glisser entre mes doigts. Si j'oublie, tu t'en vas. Va jusqu'au bout de ta folie. Deviens célèbre ou banni. Fais-toi descendre ou fleurir. Et bats-toi avant de mourir. Bats-toi. 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 Comme se lève la rue. Je t'aime, je t'avais reconnu. Je sais, tout est dans le regard. L'amour, la folie, le cafard. Tu ressembles à un ange sur les rives de la nuit. Et ma musique fuit. Je suis qu'un métis qui provoque à la transe. Je plonge et je m'élance au fond des précipices.